Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Le meilleur de Séances Radio est maintenant sur We Love Cinéma.
Vous écoutez La Grande Séance, l'émission 100% cinéma en live sur Séances Radio.
Et oui, vous êtes bien sur Séance Radio et vous écoutez La Grande Séance. Merci d'être là en ce mercredi, jour de sortie des films. Vous connaissez le concept, on va discuter cinéma, on va parler des tops et des flops, on va avoir un débat, bref, on va parler cinéma, on aura même un quiz comme à chaque fois à la fin de l'émission, donc ça va être très sympa. Et puis, je vais vous présenter nos blogueurs, Antoine Corté de Bulle de Culture, vous le connaissez. Bonjour Antoine.
Eh bien, oui, bonjour.
Et on a un petit nouveau, soyez indulgents.
Bonsoir.
Émilien Moreau, Bulle de Culture aussi. Bonsoir Émilien.
Bonsoir.
Donc on parlera de vos coups de cœur, peut-être de vos coups de colère, on verra, on parlera de Deauville. Mon invité, je l'ai rencontré ce matin chez elle. Elle m'a fait le plaisir de m'accueillir dans son appartement, c'est Daniel Thompson pour Ces années moi, de Guillaume Canet et Guillaume Gallienne. Donc l'interview est toute fraîche, elle était sur les charbons ardents puisqu'elle attendait les premiers chiffres, les chiffres des Halles. Et les chiffres sont pas excellents mais ils sont pas catastrophiques non plus. Et puis Nicolas Balazar, rappelez-nous comment on peut intervenir dans cette grande séance.
Bonsoir à tous, donc pour intervenir c'est sur nos réseaux sociaux, Twitter, Séance Radio avec le hashtag La Grande Séance et sur Facebook.
On parlera aussi évidemment, merci Nicolas, des événements, Festival Lumière bien sûr, le Festival du film britannique de Dinard, et puis un festival très sympathique qui est à Pont-à-Mousson, des Notes et des Toiles. Il n'y a pas beaucoup de festivals de musique de film en France, et en voilà un, donc on en parlera, on vous expliquera. Et puis évidemment on aura notre blind test, et en hommage à Cézanne et moi, ce seront les artistes au cinéma, et là il faudra être au taquet, parce que les extraits sont courts, il faudra deviner. Dans un instant on fait les tops et les flops de ces 15 derniers jours au box-office.
La grande séance, le box-office.
Alors, on va commencer par le meilleur, le plus agréable à entendre. Dans les tops français, c'est Victoria de Justine Triet, cette jeune réalisatrice qui avait fait la bataille de Solferino. Son film, il vient de Cannes, il était dans une section parallèle à Cannes. On en a beaucoup parlé et ça, c'est toujours bien. Vous savez, dans le cinéma, les Américains ont de la chance parce qu'on les voit venir de loin, les gros blockbusters. Nous, le problème souvent des films français, c'est qu'on les voit pas arriver et ils disparaissent très vite des salles, sauf que Victoria, depuis quelques mois, on l'a vu arriver. Du coup, en première semaine, il fait 260 000 entrées. Ça vous paraît peut-être modeste, mais c'est bien pour un film français, avec Virginie Efira, avec une réalisatrice qui n'est pas encore très connue, donc ça c'est dans les tops. Dans les flops, le pire peut-être, pardon pour lui, mais c'est Nocturama, hein, qui est à 48 000 entrées seulement, et qui est sorti, Nocturama de Bertrand Bonello,
il y a 3 semaines.
3
semaines déjà, maintenant. 3 semaines. Bah, c'est lié aussi un peu au sujet, hein, très grave du film...
Ouais, en même temps, le Nocturama, ça s'attachait pas aux vrais djihadistes, donc je sais pas, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Nocturama, pourtant le titre n'était pas un titre repoussoir. Mais donc là, c'est une grosse catastrophe, Antoine.
Oui, c'est une grosse catastrophe. Je crois même que le titre original était vachement plus punchy.
Paris est une fête.
Voilà, c'est ça.
C'était ironique.
C'était assez ironique, et donc mais du coup, ils l'ont transformé, mais ça n'a pas marché.
L'autre flop, c'est La Taularde. Normalement, Sophie Marceau, quand elle revient sur les écrans, elle fait plus que ça. La Taularde a fait 96 000 entrées en première semaine. Donc, c'est bien un flop, quand même.
Ah,
non
bah, oui.
Oui,
Sophie Marceau.
Julien, ouais. C'est un flop. Voilà, la Taularde. Voilà pour les Français. Pour parler de choses plus gaies, Le Petit Boulot, c'est pas mal. En 3 semaines, il est à 330 000 entrées. Donc, c'est un hommage à Pascal Chomel qui nous a quittés de dire que oui, c'est pas mal, 330 000 entrées pour Un Petit Boulot. Non?
C'est
honnête.
Bah, en tout cas, il y a un très bon bouche à oreille. Je pense que ça peut encore continuer.
Ah oui, ça peut encore continuer.
Ça peut encore continuer longtemps. Ouais.
Un petit boulot avec Romain Duris, notamment. Alors voilà pour les Français. Côté américain, l'un des succès de cet été, parce que c'est plutôt des continuations de succès que nous avons, c'est Comme des Bêtes, qui est à 3 285 000 entrées, donc c'est pas mal. On est d'accord,
ouais.
Parce qu'on peut pas dire que les blockbusters ont super brillé cet été, même s'ils ont fait autour de 3 millions pour certains. Parmi les flops, eh bien, il y a Ben Hur qui est sorti quand même il y a deux semaines, une semaine et demie, voilà. Et qui est à Ben Hur, c'est quand même un gros truc. Hein.
Oui, mais
313 000 entrées. Oui, Antoine, commentaire.
Oui, passer après le premier, c'est quand même très difficile. Et
on va voir. D'ailleurs, moi, je sors à l'instant des 7 mercenaires, qui est aussi un remake. Je vais pas trop vous en dire, mais bon, ça se laisse voir. C'est pas le meilleur western que j'ai vu depuis la reprise des westerns il y a une quinzaine d'années. Mais on va voir si ce remake est un top ou un flop comme Ben Hur. Est-ce que les gens vont avoir envie d'aller voir les 7 mercenaires? Le premier était génial. De Sturges, je crois. Hein. Il était vraiment bien. Celui-là, il y a Denzel Washington, qui n'a pas le même charisme que Steve McQueen ou Bronson, mais on va voir si ça marche. Et puis, dans les flops de chez Flop, il y a Free State of Jones, avec l'ami Matthew McConaughey, et qui est quand même à 68 000 entrées en première semaine.
Ah oui.
C'est rude.
Ah, c'est très.
Et je crois que Matthew McConaughey, il a un problème au box-office depuis son Oscar pour Dallas Buyers Club.
Ouais,
et
depuis,
rien ne marche en fait.
Depuis son accent très très radical.
Ouais. Et
il va
voilà.
Plus loin
donc,
dans
donc j'ai tout dit sur les tops et les flops américains et français. Dans un instant, on se retrouve avec vous, mes chers amis Antoine et Antoine et Emilien.
La grande séance, l'actu cinéma des blogueurs.
Alors Antoine, c'est très sympa à vous, mais c'est vrai, je le pense. Petit bilan des films de Deville, j'y étais, donc ça m'intéresse.
Bah oui, on a pu d'ailleurs souvent échanger ensemble.
Absolument.
Et je pense qu'on va peut-être avoir les mêmes mêmes petits coups de cœur, parce que moi j'en note 3, effectivement. Il y a le premier, on va en parler avec Emilien tout à l'heure, c'est Captain Fantastic.
Ouais.
Avec Viggo Mortensen, mais ça je passe très vite parce que Emilien va très bien nous l'expliquer. Il y a le deuxième, c'est un peu le succès surprise et finalement le Sing Street.
Oui,
qui a
pas eu de prix.
Non, il a rien eu.
Alors est-ce que vous pensez pas, Antoine, qu'il n'a pas eu de prix parce qu'il est très anglais comme film? Il se passe à Dublin dans les années 80, c'est des Anglais. On se demande un peu ce qu'il faisait au festival du film américain de Deauville.
Peut-être.
Moi, je pense que ça a un peu tétanisé le jury.
Moi, je pense que c'est aussi l'aspect très musical, parce que c'est quand même une comédie.
C'est génial.
Mais c'est génial, voilà. C'est
parce qu'il y a l'aspect musical, mais en même temps, il y a un côté Ken Loach derrière, parce que Dublin, c'était pas le cas dans les 80, c'était terrible.
Avec une conception de la jeunesse à Dublin, comment ils nous filment ça avec des jeunes.
Alors racontez l'histoire pour faire envie de sur ce Sing Street.
Eh ben en fait c'est assez mignon, c'est assez simple. C'est un jour un jeune étudiant de Dublin qui souhaite séduire une jeune fille là-bas, et pour la séduire il va monter un groupe de rock.
Alors que il est fan de musique, mais il connaît rien. Il lui dit juste pour frimer,
voilà,
j'ai un groupe. J'aimerais que vous soyez notre égérie. On va faire un vidéoclip, ce qui se faisait pas beaucoup à l'époque.
Il voit les yeux de cette jeune fille complètement s'illuminer quand il leur dit j'ai un groupe de rock.
Et il le crée.
Et après il faut vite qu'on crée un groupe de rock.
Ouais. Et c'est très beau parce qu'en même temps c'est très musical, et je crois qu'il y a des musiciens connus qui ont écrit pour eux.
Oui, le Adam Levine qui fait partie du groupe Maroon 5 et qui signe le générique de fin notamment.
Et d'autre côté, c'est très très beau et très émouvant parce que ces gens-là veulent quitter Dublin. Ils sont d'un milieu social très pauvre. Lui, il se fait un peu harceler dans son lycée. Et voilà, il y a un côté sombre derrière. En même temps, c'est lumineux, c'est drôle, c'est émouvant. C'est un mélange. C'est un mélange de films social et de films musical drôle et enthousiasmant qui est vraiment très réussi.
Ouais.
Sing Street. Et il sort
quand ? Il sort le 16 ou 15 octobre, je ne sais plus quel jour ça tombe exactement, mais c'est mi-octobre.
Et il faut parler de Brooklyn Village ?
Mais exactement.
Qui sort aujourd'hui ?
Voilà,
il faut aller le voir celui-là.
Oui. Pour moi, je pense que ceux qui ont aimé notamment Boyhood, qu'on a eu il y a quelques années, le public aimera aussi Brooklyn Village, parce qu'on est dans une Amérique du quotidien. C'est la caméra du réalisateur nous filme très simplement une amitié entre deux jeunes personnes, et finalement l'enjeu c'est qu'on en a un des deux qui va déménager et donc ils vont se quitter à la fin.
Ah, c'est ça. Alors parce que la famille de l'un et de l'autre, on ne va pas s'entendre, il y a un petit côté social. Moi j'ai pensé, ça n'a rien à voir, mais j'ai pensé à la séparation d'Oscar Paradis, parce qu'il n'y a ni bon ni méchant dans l'histoire.
C'est vrai.
Voilà, ni bon ni méchant. Les parents du gamin sont pas méchants, la mère de l'autre gamin couturière, qui est plutôt d'un niveau social, elle n'est pas méchante non plus, mais il va y avoir un conflit entre les deux familles, c'est très fin. Et vous aviez autre chose à dire sur Deauville ?
Sur c'est bon. Vinyle, c'est bon.
Voilà, c'est bon. Et Guillaume Canet, qu'est-ce que vous voulez en vouler ou quoi?
Alors non. Alors déjà, je vous assure que j'avais soumis le sujet avant l'affaire Brad Pitt Marion Cotillard du jour.
Ah oui, mais oui.
Mais Marion.
Enfin, là, ça n'est que du, ça n'est que des rumeurs.
Ce n'est que des rumeurs.
C'est people.
C'est du
pas du cinéma.
Non.
C'est une rumeur.
Oui.
Parce que Guillaume Canet est toujours avec Marion Cotillard normalement.
Oui, normalement.
C'est une rumeur.
Mais en tout cas, c'est une mauvaise année du point de vue du cinéma, à mon avis, pour Guillaume Canet, parce que effectivement, on va parler de ces années, moi, mais...
Que vous n'avez pas aimé?
Que je n'ai pas aimé, effectivement. Mmh. On a un Guillaume Canet...
On n'est pas d'accord,
qui,
donc
qui est... Ah, qui, pour moi, est complètement plat, qui ne s'est pas incarné, ce Émile Zola, dans ces années, moi.
Alors que moi, je ne suis pas d'accord. Je trouve qu'il est retenu en intériorité. Il a un jeu très différent de celui de Guillaume Gallienne. Et je trouve que Zola était un type... d'ailleurs, elle explique bien, Daniel Thompson, un peu coincé quand même, beaucoup plus coincé, moins extraverti que Cézanne. Donc je trouve qu'il rend ce personnage. Enfin bref, on n'est pas là pour débattre de ça, donc voilà.
Et il y a Le Secret des Banquises, dans le film dans lequel il avait joué au début d'année, de Marie Madinier.
Ah, j'ai pas vu
là
ce film.
Là encore, où...
Le Secret des Banquises.
Oui, c'est en fait, il cherche un gène pour guérir des personnes, et donc du coup, il le trouve dans la génétique.
Il y avait Guillaume Canet dans ce film-là?
Oui, et Charlotte Lebon.
Et il a marché ce film?
Pas du tout.
Ah oui, j'imagine.
Ça a été la... Donc voilà, mauvaise année cinéma pour
Guillaume
Canet.
On va voir,
Canet.
Peut-être quelque chose de super va se passer pour lui.
Mais il réalise à la fin de l'année Rock'n'Roll.
Ah, il y a un nouveau film qui sort.
Oui, de lui.
Et qui sort avant la fin de l'année.
Enfin, il va sortir en janvier, fin décembre, début janvier.
Donc on espère que ça va être...
ça va le relever.
Que ça va être dans les tops. Émilien Moreau de Bulle de Culture, vous allez nous parler... D'abord, on va commencer par Capitaine Fantastique, puisqu'on vient d'en parler.
Ouais.
Qu'on a vu à Deauville et qui sort bientôt. Hein.
Il sort mi-octobre aussi.
Mi-octobre aussi.
Octobre.
Alors, racontez-nous.
Bah, gros coup de cœur. Gros coup de cœur pour Captain Fantastic. Nous, on avait eu la chance de le voir en juin dernier. Et donc, ça fait quelques mois que je veux le conseiller à tout le monde, mais que bon, les gens ne peuvent pas le voir. Et donc, ouais, très, 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 très beau film indépendant américain et qui mérite les prix qu'il a eu à Deauville, je pense.
Oui, on peut juste dire que c'est un film qui est à la fois très intelligent et très grand public. Donc
voilà,
j'espère qu'il peut cartonner.
C'est un feel-good movie,
ouais.
Donc ça ne tombe jamais dans le drame. Et pourtant, c'est intelligent. Les personnages sont tous... c'est très gris, c'est pas noir et blanc.
On peut expliquer juste pour les auditeurs qui n'avaient pas entendu la présente émission, parce qu'on avait parlé, que c'est l'histoire d'un père qui veut élever ses enfants hors civilisation dans une forêt du sud-ouest des États-Unis. La mère est à l'hôpital. Lui, c'est un peu un fou. Il adore ses enfants, mais en même temps, c'est un fou furieux dans le côté rebelle contre la société de consommation, alors qu'il apprend à se battre, à escalader des montagnes, etc. Puis un jour... les enfants et toute la famille est confrontée à la civilisation à l'occasion de la mort de leur mère. Et là, c'est le choc de deux façons de concevoir l'éducation des enfants. Et c'est très intelligent parce que le film, je veux pas de spoiler, mais le film, voilà, le film n'est pas manichéen, on va dire.
Ouais, voilà, il montre vraiment les points de vue de tout le monde. Et notamment celui de Viggo Mortensen qui joue ce père de famille.
Il est génial lui. Hein,
il est génial. Joue, il est dans le film, il est absolument anti-système. Peut-être aller trop loin ou pas, on ne sait pas. Mais du coup, le film est un vrai questionnement, je trouve, qui aujourd'hui est de plus en plus présent dans le cinéma sur justement questionner le système, le remettre en question. Et à travers ce film, justement, à travers la position de ce père de famille qui se demande si il va trop loin en se coupant totalement du système, et ben il doit apprendre à faire des compromis. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui réalisent ça, ces compromis qu'on doit faire avec le système, qui est de plus en plus remis en question.
Et le film est pas un télo dans le mauvais sens du terme. Il est vraiment très brillant et émouvant en plus, parce que tous ces gamins. Et alors, vous vouliez nous parler de nouvelles tendances dans le cinéma, c'est les idées. Qu'est-ce que vous appelez les idées alternatives?
C'est justement cette remise en question du système. Où on se rend compte de plus en plus, et Internet aide beaucoup la donne, que les choses ne marchent pas vraiment, que le capitalisme est beaucoup, beaucoup, beaucoup maltraité aujourd'hui au cinéma. Je viens de voir War Dogs.
Ouais.
Et là aussi, ça, je trouve que ça, c'est une critique sur le capitalisme aussi.
War Dogs qui est sorti, hein?
Oui, il est sorti aujourd'hui, ouais. Ouais, il vient de sortir. J'ai l'impression, du coup, que dans de plus en plus, dans plus en plus de films, on a ce discours anticapitaliste, anti-système et que...
Et moi, je pensais que ces idées alternatives, c'est aussi pour faire du cinéma, parce qu'il y a aussi des idées alternatives maintenant pour fabriquer des films un peu en dehors du système. Oui. Vous pensez, Antoine, Julien, que ça peut marcher? Antoine Corté?
Non.
Les idées alternatives... Est-ce qu'on peut réussir à faire un film, d'après vous, aujourd'hui, hors système?
Je pense pas.
En demandant à en demandant à tout le monde, je sais pas comment on appelle ça.
Le
crowdfunding ou le
crowdfunding.
C'est ça. Hein. Ouais.
Moi, je pense pas, parce que du coup, effectivement, on a des films un peu à la marche qui arrivent à émerger par le crowdfunding, mais on reste quand même dans un système où faire du cinéma c'est très cher, et donc du coup, on aura toujours besoin de producteurs, de personnes pour des distributeurs au cinéma. Donc du coup, je pense que le système, il est inchangeable au cinéma.
Bah, moi, je suis pas d'accord. Je pense que le crowdfunding, justement, c'est quelque chose qui est en train de marcher. Je connais plein de films, surtout, enfin, même aux États-Unis, qui se lancent comme ça. Après, en effet, je pense que vu que c'est une industrie, il faut des distributeurs et des producteurs et tout ça. Mais je pense que comme pour un lancement, d'avoir un petit budget de 2 millions, on peut passer par Internet.
Ça peut être une idée pour un prochain débat dans cette grande séance. Ouais. Dans un instant, on va retrouver notre invité avec cet entretien que j'ai eu ce matin avec Daniel Thompson pour son film qui sort aujourd'hui, Ces années moi.
La grande séance, l'interview.
J'ai donc rencontré Daniel Thompson sur ce film qui raconte quelque chose qu'on connaissait pas bien, l'amitié entre Cézanne et Zola, qui se sont rencontrés à l'école, qui avaient une amitié fusionnelle, qui partageaient les mêmes filles. Et le point de vue qu'elle a choisi, Daniel Thompson, c'est de montrer qu'il y a eu une brouille à un moment, et d'ailleurs tout le film est un espèce de retour en arrière qui raconte leur vie, chacun leur manière de créer. Zola, il était pauvre et il a réussi à vendre ses livres et il est devenu riche. En tout cas, il avait de quoi, il a même aidé Cézanne. Cézanne était fils d'un banquier qui l'a renié et a été pauvre toute sa vie, inconnu et même pas calculé, comme on dirait aujourd'hui, par les gens, parce qu'on connaissait pas son œuvre, sauf à la toute fin de sa vie. Et puis, il y a eu un drame parce que Zola a piqué dans leur propre vie des éléments pour faire un livre qui s'appelle L'œuvre, et je vous conseille de lire maintenant avec cette lumière-là, cet éclair-là, L'œuvre, où il parle d'un peintre raté, et il s'est beaucoup servi de la vie de son camarade pour parler de ça, et évidemment Cézanne y en a beaucoup voulu, ça a été rude. Alors la question qui m'est venue à l'esprit quand j'ai rencontré Daniel Thompson, c'est de demander si son amour pour l'art et pour la littérature l'avait amené à ce sujet.
Sûrement quelque part c'est venu de là, mais c'est surtout venu de l'envie de parler des vrais hommes et pas des grands hommes. Donc ces hommes qui sont dont on a entendu parler tous dès l'école, et puis après on s'est plus ou moins intéressé évidemment à leur travail, parce qu'après tout c'est un travail comme un autre et c'est un travail acharné. Et puis après ils sont devenus des vieux barbus à barbe blanche et des hommes très 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 célèbres dans le monde entier. Mais justement, ce qui m'a intéressé et ce que j'ai découvert à travers leur correspondance et puis des biographies de l'un et de l'autre, c'est vraiment justement le contraire de tout ça, c'est-à-dire leur vie de tous les jours, leur problèmes, leur mesquinerie, leur générosité, leur jalousie, leur cette amitié là qui dévoile beaucoup de vérités sur ces êtres humains là qui ont vécu comme vous et moi et comme nous tous des déceptions, des trahisons, une vie sentimentale compliquée, l'humiliation même Zola d'ailleurs, parce que Zola a été extrêmement décrié en son temps, même s'il a bien très bien vécu de sa littérature, qui était une littérature très populaire qui marchait très bien. Il s'est fait cracher à la figure beaucoup, alors ne parlons même pas de l'affaire Dreyfus plus tard, mais même ces livres, ça a été traîné dans la boue par beaucoup de critiques à l'époque. Cézanne, n'en parlons pas, personne ne l'aimait, donc, et il n'aimait d'ailleurs personne lui non plus. Mais tout ça m'a paru vraiment très intéressant pour plonger dans cet univers.
Alors comme vous avez beaucoup travaillé, même au-delà de ce qu'on voit dans le film, je vais vous demander qui était Cézanne, comment vous le voyez, et qui était Zola. Zola d'abord, joué par Guillaume Canet. Quel genre de personnage? Un peu retenu, un peu...
Alors, je pense que bon, c'est un humaniste, c'est un homme qui aime la vie, qui a une revanche à prendre sur une enfance vraiment dans la misère, et bien sûr toute son œuvre, de tous ses livres sont plongés dans la vie de ces ouvriers, des gens simples, de qui vont des mineurs aux petites vendeuses du bonheur des dames, en passant par les filles des bordels. Enfin, c'est quelqu'un qui s'est complètement immergé dans la douleur sociale, et il est cité tous les jours à tort et à travers. D'ailleurs, on dit c'est du Zola, même sans très bien savoir de quoi on parle. Mais c'était vraiment un homme qui était impliqué dans la vie de son temps, profondément, et qui, je crois comprendre, et puis j'en ai beaucoup parlé avec son arrière petite fille, Martine Lonzola, qui adore le film, et qui me dit beaucoup qu'elle a retrouvé exactement pour elle ce qu'était son arrière grand-père. C'était quelqu'un probablement assez timide dans sa relation avec les femmes, par exemple, alors que quand on lit La Nana, on a l'impression de quelqu'un de finalement sa sensualité personnelle, elle est certainement cachée.
On sent ça dans le film, d'ailleurs, dans la façon de jouer de Guillaume Canet.
Oui, on le sent, parce que c'est un homme qui est bouleversé quand tout à coup il tombe fou amoureux à 48 ans d'une jeune fille de 20 ans, et alors qu'il aime encore sa femme. Je pense pas que c'est quelqu'un. Je pense pas que c'était ce qu'on appelait à l'époque un homme à femme. Je pense pas qu'il avait beaucoup trompé sa femme. C'était quelqu'un qui a eu vraiment ces deux femmes dans sa vie. Donc c'était déjà assez compliqué comme ça, mais je pense pas qu'il y en a eu 150 autres. Et tandis que pour parler du personnage de Cézanne, que moi j'ai complètement découvert, parce qu'on sait quand même tous un peu des choses sur la vie de Zola, notamment bien sûr non seulement sa littérature mais son engagement politique, J'accuse, tout l'épisode incroyable de l'affaire Dreyfus qui se passe après mon film, mais alors Cézanne, je pense qu'il en a rien à fiche de ce qui se passe en dehors de sa peinture. Il est enfermé dans son obsession de trouver quelque chose, il le dit d'ailleurs dans ses lettres, de d'arriver à peindre le vent et non pas l'arbre, non pas le soleil mais la chaleur du soleil. C'est vrai qu'on voit ces tableaux extraordinaires qu'il a peints autour de la montagne Sainte-Victoire. On sent la chaleur, on entend les criquets. Quand on tournait là-bas, on sentait ce qu'il avait réussi à peindre, et donc il est un obsessionnel de son travail. C'est pas quelqu'un qui aime les gens. C'est pas quelqu'un qui est ouvert sur tout ce qui se passe. Il s'en fout la guerre de 70 qui va quand même être déchirée la France, la Commune qui va déchirer bien sûr encore une fois la France. Tout ça, il est enfermé dans sa maison, mais il est enfermé dans son univers de soleil et de violence de la nature. Mais ce qui se passe politiquement autour de lui, il s'en fout.
On le sent aussi dans la façon que Gallienne a de représenter le personnage. Il est en colère, il est ronchon, il a un peu d'amertume.
Oui, il est très humilié par le fait qu'il est très ignoré. Il est ignoré, ce qui est encore pire que d'être bafoué. Il n'existe pas pour les collectionneurs. Ne parlons évidemment pas du salon et de les institutions. Les copains peintres ne l'aiment pas beaucoup. Et puis on ne l'aime pas beaucoup parce qu'en plus il est pas très aimable. Il est agressif. En effet, il se lave pas, il s'habille pas, il se marginalise, alors qu'il a été élevé dans une famille bourgeoise très propre sur elle, avec un père parvenu, donc qui au contraire justement a essayé de s'élever dans la condition sociale. Lui, il en a rien à foutre de tout ça, et au contraire il se clochardise à la limite. Il a une petite pension que lui donne son père, mais comme il vit avec une femme et un enfant qu'il a caché à son père parce qu'il a honte, il a un peu peur de son père et il a honte, donc il vit en utilisant tout cet argent beaucoup pour ses toiles et ses pinceaux et ses couleurs, et ils vivent quasi dans la misère. Donc effectivement, Zola les aide, puisque lui, à ce moment-là, et contrairement à son enfance, lui, il gagne bien sa vie. Et voilà, tout est contraire dans leur histoire. Ils ont des chemins qu'ils arrivent à parcourir un peu la main dans la main pendant très très longtemps, mais en fait ces routes, elles sont tout le temps en opposition.
Alors, ce qui est drôle dans ce que vous dites, c'est que vous qui avez dirigé tant d'acteurs, vous avez dirigé Guillaume Gallienne et Guillaume Canet, ils sont très différents aussi sur un plateau, aussi différents que les caractères de Zola et de Cézanne étaient différents. Alors racontez-nous, parce que je pense que Gallienne est assez expansif et que Canet est assez retenu.
Oui et non, parce qu'en fait, dans la vraie vie, ils sont tous les deux, finalement, ils ont des moments, enfin, comme un peu nous tous, ils ont des moments, au contraire, où ils sont l'un et l'autre, d'ailleurs, de manière assez différente, mais très extravertis et très dans, soit dans la rigolade, dans l'action, etc. Mais c'est vrai que ils se sont conditionnés pour ces personnages, c'est-à-dire que je les voyais très très bien. Alors c'est le cas de le dire, se mettre dans la peau des personnages. Bon, effectivement, il y avait de longues séances de maquillage tous les matins parce qu'ils étaient soit plus jeunes, soit plus vieux, et donc ils étaient dans un moment de préparation pour ce qui allait se passer dans les scènes qui allaient venir et je les voyais se transformer. Dans leur tête, ils arrivaient sur le plateau chargés de ce qu'ils allaient jouer. Et voilà. Et les deux hommes de 40 ans avec lesquels j'avais dîné la veille et avec lesquels on avait ri et parlé, et on s'était raconté des choses sur la vie privée. Je retrouvais le matin deux hommes totalement différents, qui était vraiment devenu pour moi Paul et Émile, et voilà, ça pouvait même parfois créer de la tension, parce que justement ils se préparaient à des scènes où il y avait de la tension, et c'était très très difficile de séparer les vrais rapports de la vraie vie avec les rapports qui avaient lieu entre Paul et Émile sur le plateau.
Alors dans un instant on se retrouve à nouveau avec Daniel Thompson, dans un instant, et puis en attendant on écoute la bande originale de Cézanne et moi.
Séance, l'émission 100% cinéma de Séance Radio.
Voilà, vous venez d'écouter un extrait de la bande originale de Cézanne et moi de Daniel Thompson, signé Eric Neveu, une très jolie musique. Nicolas, dites-nous comment on peut intervenir dans cette grande séance, poser des questions.
Pour intervenir, donc pour poser vos questions, pour commenter tout simplement l'émission, c'est sur Séance Radio, Twitter et hashtag la grande séance.
Et dans un instant, on parle des événements cinéma à venir.
Les événements cinéma sont dans la grande séance.
Alors, parmi ces événements, il faut absolument rappeler le Festival Lumière qui est du 8 au 16 octobre, donc ça approche à grands pas. Vous savez que l'invité d'honneur et l'hommage va être rendu à Catherine Deneuve, la belle Catherine Deneuve. Et juste pour vous donner une idée de ce qui va se passer, à ce Festival Lumière créé par Thierry Frémaux il y a quelques années, il y a 390 séances, 180 films dans 24 communes de la métropole de Lyon. Donc vous voyez que c'est énorme, ça marche très bien. Et parmi les hommages, les rétrospectives, les séances de cinéma géantes, moi je rappelle qu'il y aura Hollywood, la cité des femmes, puisque cette séquence sera faite à l'occasion de la sortie du livre Hollywood, la cité des femmes de notre ami Antoine Cyr. Voilà, ça c'est une des grands moments de ce Festival Lumière. Le Festival du film britannique de Dinard, qui a lieu très bientôt, puisque ça commence au 28 septembre jusqu'au 2 octobre. Alors là, vous savez que ce sont des films britanniques. Le festival se déroule à Dinard, qui était d'ailleurs une ville extrêmement agréable sur la côte d'Emeraude. 6 films en compétition, beaucoup d'avant-premières, des rétrospectives, des rencontres, des masterclass. Le président cette année du jury, c'est Claude Lelouch, qui sera entouré de Victoria Bedos, de Julie Ferrier, d'Anne Pario et de Florence Thomassin. Il y aura des acteurs anglais, James Darcy et Phil Davis, l'acteur réalisateur français Jalil Lesper, et puis des producteurs Colin Vance et Eric Lagesse. Et puis, pour la première fois au Festival de Dinard, il y aura une compétition de courts-métrages, et puis une vingtaine de films aussi, en avant-première et hors compétition. Vous voyez, c'est un festival très intéressant et qui vraiment maintenant roule bien. Et puis, je vous l'avais promis, des notes et d'étoiles à Pont-à-Mousson du 22 au 25 septembre. C'est la deuxième édition seulement. Il y a une compétition de courts et de longs métrages et une programmation hors compétition, comme souvent dans les festivals, avec des films de répertoire, pour rendre hommage à des célèbres compositeurs, réalisateurs, des comédiens, puisque on parle de notes de musique et de toiles et donc de cinéma. En tout, il y a une vingtaine de films qui sont programmés dans ce festival de Dinard, avec évidemment comme lien entre eux la musique. Dans un instant, on se retrouve pour la suite de notre rencontre avec Daniel Thompson et son film Cézanne et moi.
La grande séance, l'interview.
Vous êtes évidemment dans la grande séance et on se retrouve en compagnie de Daniel Thompson pour Cézanne et moi qui sort aujourd'hui. Alors, je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question, Daniel Thompson, à propos des 50 ans de la Grande Vadrouille, parce que sans revenir sur de manière attendrie sur ce film où vous étiez scénariste pour la première fois, vous étiez toute jeune à côté de votre papa Gérard Houry, j'ai envie de vous demander quel soin il avait pris, parce que c'est vrai que la Grande Vadrouille, qui reste très populaire, c'est un grand film comique, mais ça reste un grand film avec un cadre, avec des extérieurs. Voilà, c'est comme si on donnait des lettres de noblesse à la comédie, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui.
Ça n'est pas le cas aujourd'hui, très souvent, et puis ça n'était pas le cas non plus à l'époque, où la plupart des comédies étaient parfois très très réussies, mais enfin des petits budgets et pas du tout, pas un soin esthétique du tout. Mais il avait déjà d'ailleurs fait ça dans le Cornio. En effet, c'est un homme qui avait beaucoup de goût, qui adorait la France, les paysages français, qui avait vécu l'occupation, lui et Marcel Julien d'ailleurs, qui était notre co-scénariste aussi, et donc c'était passionnant, parce que justement je pense que d'ailleurs ce qui les avait intéressés dans le fait qu'il m'avait pris dans l'équipe, c'est que j'avais pas vécu la guerre. On est quand même que 20 ans après la guerre, donc on est pas loin.
En 1966.
On est en 66, donc là, la guerre est finie depuis 21 ans, et donc ils étaient très très conscients, eux qui avaient vécu tout ça, qui avaient vécu tout de même, bon, la peur, l'occupation. Mon père avait été obligé de quitter Paris, de se réfugier en zone libre où je suis né, et puis ensuite en Suisse, et grâce à ça je suis là aujourd'hui d'ailleurs. Et donc Il y avait une conscience de ce qu'on pouvait dire ou pas dire. Il y avait, alors que moi, pas du tout. Je me sentais très très libre par rapport à cette période. Je posais des tas de questions justement qui étaient intéressantes par rapport au public de jeunes qui allaient venir voir le film. Mais il y avait vraiment chez lui, en effet, un souci de la beauté du film. C'est Claude Renoir, le chef opérateur. C'est pas rien. C'est un des grands chefs opérateurs, donc le neveu du grand Renoir. C'était vraiment une série de repérages qu'il avait fait dans toute la Bourgogne et dans toute du côté de évidemment à Beaune et à Vézelay et dans toute cette région magnifique, parce qu'il voulait la montrer en même temps. C'était très important, ce voyage de ces aviateurs anglais dans la France de l'époque. Il avait très envie de montrer la beauté du pays, et il l'a très 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 bien montré. Et puis même l'opéra, ce lieu sublime. Donc tout ça, c'est une préoccupation constante pour lui. Je pense qu'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles le film est toujours tellement enfin, le film préféré des Français, c'est qu'il est beau, le film. Il est esthétiquement très beau, la musique est magnifique, les costumes, les décors, tout ça, c'est très 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 beau. Alors ça compte.
Alors les personnages devaient aller encore beaucoup plus loin, et je sais pas si c'est Julien ou quelqu'un a dit il faut s'arrêter à Albi, et c'est drôle parce qu'il y a une anecdote, c'est que pour pas faire trop long, c'est maintenant l'anecdote, c'est attention à Albi, hein.
Oui, on avait continué l'histoire. Il passait en Espagne, en fait, à la fin du film. Et donc, le film avait carrément 25 minutes, une demi-heure de plus. Et c'est notre producteur Robert Dorfman qui, quand on lui a raconté le scénario, qu'on lui a plus ou moins lu le scène à scène, et puis maintenant, ils font ci, ils font ça. Enfin bon, tout à coup, on l'a vu sombrer dans l'ennui. On voyait son regard s'éteindre au fur et à mesure que mon père, qui était génial pour raconter un scénario, donc, et tout à coup, à partir d'Albi, en effet, on s'est dit oh là là, il faut qu'on termine le film plus tôt. Ça a été la grande décision de cette période de scénario, et donc on a décidé d'arrêter le film quand ils franchissent la ligne de démarcation, qui à l'époque évidemment c'était une grande victoire. Et voilà, et je pense en effet que si on avait rallongé le film de 20 minutes, une demi-heure, on se serait planté. Donc ça a été une décision très 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 salutaire, et puis c'est devenu en effet un code dans la famille. Attention à Albi, ça veut dire qu'on est trop long.
Tout à l'heure, on a parlé de Guillaume Gallienne et de Guillaume Canet à propos de ces années moi. Il y avait un autre tandem célèbre, évidemment, Louis de Funès et Bourvil. Est-ce que vous, qui connaissez bien les acteurs, vous trouvez que le code a changé ces acteurs? Est-ce qu'ils sont différents aujourd'hui?
Non, je crois pas qu'ils sont différents. C'est intéressant d'ailleurs de faire le parallèle entre ces deux couples, parce que c'est vrai que plus différents que Bourvil et de Funès dans la vie, on peut pas imaginer. Je veux dire, on avait vraiment, alors là, en effet, un personnage curieusement exactement le contraire de ce qu'on voit à l'écran, c'est-à-dire de Funès, un personnage timide, réservé, extrêmement calme, avec de l'humour, mais un humour un peu glacial, alors que évidemment, quand on le voit en effet faire ces fameuses grimaces ou c'est cette gestuelle corporelle absolument extraordinaire, enfin ce génie clownesque qui est quelque chose qui, Dieu merci, dure et durera encore. On a du mal à l'imaginer. Et donc il arrivait sur le plateau, il se passait des choses absolument électrifiantes et électriques. Et puis Bourvil, alors lui qui a d'ailleurs joué, qui a su magnifiquement jouer dans d'autres films des personnages extrêmement graves.
Je pense au Cercle Rouge, notamment.
Un film de Melville, ou des films comme Fortuna avec Michel Morgan, où il joue un personnage pathétique, appelé d'une grande tendresse, délicieux. Il a Le Miroir à deux faces, encore une fois avec Michel Morgan, où il joue un mari désespéré qui finit par assassiner un homme, qui est d'ailleurs joué par mon père dans le film. Donc tout ça, Bourvil était quelqu'un de complètement jovial, joyeux, amoureux de la vie, tendre, drôle. Voilà, moi j'ai souvenir formidable de dîner avec et de repas avec lui sur les tournages. C'était un homme complètement extraverti, complètement le contraire de l'autre. Et voilà, et sur le plateau, je sais que c'était aussi un petit peu compliqué pour mon père, parce que Bourvil était formidable dès la première prise, et puis il se fatiguait un peu au cours des prises, et de finesse c'était le contraire. Mon père savait qu'il fallait le pousser, il devenait de plus en plus insensé au fur et à mesure qu'on allait plus loin dans les prises, et donc ça compliquait les scènes à deux, bien sûr.
Vous allez souvent au cinéma, vous restez une cinéphile avertie, il y a beaucoup de comédies, les comédies sont à la mode. Qu'est-ce que vous pensez, de manière générale, de l'état du cinéma français et des comédies que vous voyez? Vous êtes aussi curieuse, vous êtes toujours admirative. Là, il y a le film de Xavier Dolan qui sort aujourd'hui, juste la fin du monde. Vous êtes toujours ouverte, bienveillante?
Ah oui, moi j'ai beaucoup aimé le film de Xavier Dolan que j'ai vu à Cannes. Ce qui me désespère, c'est l'ennui. Alors, si je m'ennuie, ça me désole et j'aime pas les films qui m'ennuient. Mais j'adore certains films très longs, magnifiques, à partir du moment où ils sont, où ils viennent me chercher dans le cœur et dans la tête. Donc, j'ai adoré, par exemple, le film allemand Tony Erdmann, que j'ai vu à Cannes aussi, qui je crois fait 2h20 ou 2h40, je sais plus, mais enfin, j'ai pas vu le temps passer. Et puis il y a d'autres films, je les citerai pas parce que j'ai pas du tout envie de taper sur mes copains, mais ou sur des gens que j'admire quand même d'ailleurs, mais où je ressors de là en me disant oh là là, pourquoi tant de temps pour raconter des histoires qui n'accrochent pas, qui ne me touchent pas. Donc voilà, j'ai envie d'être ému. Je crois que je suis comme les spectateurs en général. Je peux être tout à coup en effet totalement séduite par un film russe ou un film turc qui va durer des heures et qui est absolument sublime, et puis voir une petite comédie de rien du tout où je m'ennuie profondément. Donc
est-ce que c'est toujours aussi difficile, même quand on s'appelle Daniel Thompson, de financer un film aujourd'hui? Est-ce que c'est toujours une épreuve? Là, c'était Ces années moi, c'est un film à moyen, donc à risque. Est-ce qu'on a toujours une petite boule au creux du ventre?
Oh, bien sûr qu'on a une boule au creux du ventre. En plus, c'est mon producteur qui est en plus l'homme de ma vie. Oui, il a eu beaucoup de mal à monter ce film. C'était très très. C'est très difficile. C'est de plus en plus difficile en plus. Et Daniel Thompson ou pas, je veux dire, pour l'instant, ça compte pas. Je crois qu'on est aussi beaucoup la personne de son dernier film. En plus, le dernier film n'avait pas bien marché, donc c'était pas simple du tout. Bien sûr, la boule est là. Moi, ce que je souhaite le plus, c'est que le public vienne voir le film. C'est un sujet intimiste, et moi j'ai essayé d'en faire un film populaire. Donc l'enjeu il est là, il est fort. Donc voilà, on va voir comment ça se passe. On est très 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 à la fois, on a une expérience. Enfin, moi, j'ai une expérience de depuis longtemps de ces fameux mercredis, et on se dit qu'on va réussir à vivre ça de manière détachée, et puis en fait, pas du tout.
Dernière question. Finalement, le rire est toujours dans vos films, même derrière la gravité. Sauf que dans Ces années moi, c'est pas du tout une comédie. Bon, donc même s'il y a des moments drôles et il y a des moments d'émotion, est-ce qu'on peut imaginer un jour que vous, Daniel Thompson, avec ce qui se passe aujourd'hui de dramatique un peu dans l'air du temps, vous fassiez un pur film dramatique?
Oh, je crois que Ces années moi est quand même un film dramatique. C'est pas un drame. Mais enfin.
Oui, mais est-ce que c'est pas un passage à un prochain film qui ne sera pas forcément une fresque et qui sera une comédie purement dramatique?
Je sais pas ce que je vais faire maintenant, mais c'est vrai que les comédies ou les films comiques, j'en ai vraiment beaucoup fait. Donc là, pour l'instant. Je pense que l'air du temps en effet fait que les gens ont de plus en plus envie de s'amuser et qu'on leur raconte des histoires qui les fait rire, ça c'est certain, mais moi je suis un petit peu entre deux moments de ma vie professionnelle. Bon, je sais pas pas très bien ce que j'ai envie de raconter maintenant, mais ce que je voudrais surtout, c'est passionner le public. Alors, quel que soit le genre, un film très violent, je pense pas que j'aurais envie de faire ça. Je pense que d'autres savent le faire mieux que moi. Et donc, je pense qu'il faut essayer de faire ce qu'on sait faire. Et moi, ce que j'aime faire, en tous les cas, je sais pas si je sais le faire, mais c'est ce que j'aime faire, c'est vraiment parler des gens, des êtres humains et de leur quotidien. Et à travers, que ce soit une comédie ou même Ces années, moi, c'est ça dont je parle. Je parle vraiment des gens et des vrais gens derrière, soit des héros très ou des personnages mythiques très connus, soit des comédies, des films qui sont complètement inventés. Je parle de sentiments. Voilà. Alors, je pense que c'est quand même de ça que j'ai envie de faire.
Voilà, c'était Daniel Thompson qui m'a reçu ce matin pour son film Ces années moi avec Guillaume Canet, Guillaume Gallienne. On lui souhaite longue vie. Dans un instant, on va parler justement du cinéma français, entre autres, dans notre séquence débat.
La grande séance, le débat.
Alors le sujet, il est assez ambitieux et optimiste, puisque la question qui se pose, et vous pouvez évidemment intervenir dans cette émission, c'est est-ce que les films français commencent à prendre le pouvoir dans les salles en cette rentrée, en sachant que l'été n'a pas été super brillant pour les films américains notamment. On peut dire que les blockbusters n'ont pas été aussi hauts qu'ils le font en général l'été. Alors je pose la question à évidemment Émilien et à Antoine, qu'est-ce que vous en pensez ? Antoine.
Bah, de toute façon, vous me connaissez maintenant, je suis toujours un peu à défendre le cinéma français. Et moi, je suis assez enthousiasmé par les grands films français qui vont nous arriver pour cette fin d'année.
Alors déjà, pour mettre en ordre, cet été, ça n'a pas cartonné, sauf qu'il y avait quand même Camping 3. C'était Camping 3,
qui a fait
3 millions de 100 000 entrées. Donc ça, c'est déjà ça de prix pour le cinéma français.
Exactement. Surtout que, en plus, Camping 3, après l'échec des Visiteurs en ce début d'année, on pensait que ça allait également se planter. Et finalement, non, on voit que des recettes, Franck Dubox,
ça peut marcher.
Voilà.
Ça veut dire, alors, transition, ça veut dire que Brice de Nice 3 peut marcher.
Et
on l'attend avant la fin de l'année, c'est bientôt là.
A fortiori, c'est le grand pari. Est-ce que Brice de Nice 3, ça va faire un Visiteur ou un Camping 3?
Parce que on parlait tout à l'heure du film de Justine Triet-Victoria qui fait 300 000 entrées, qui va aller jusqu'à, si elle a un bon pocheret, 500 000, 600 000, 700 000. Mais c'est pas de Victoria qu'on attend les chiffres d'un blockbuster. Donc il y a Brise de Nice 3, il y a Radin.
Oui.
Le film de Fred Cavaillé avec Danny Boone, qui peut marcher. Qu'est-ce que vous en pensez, Émilien ?
Bah, je pense que, ouais, il y a un pitch très fort et assez simple qui peut bien ramener les gens dans les salles, quoi.
Ouais, c'est. Et vous, Antoine, Radin ?
Radin, ça va fédérer, c'est sûr. Après, est-ce que ça va être un succès ? Je ne pense pas, mais ça va être assez honorable, mais je pense que surtout pourquoi on a des films français qui prennent le pouvoir, c'est que cet été aussi on a eu une espèce de déception au regard du cinéma américain qui s'est enchaîné, parce que les Suicide Squad, les critiques se sont déchaînées, et du coup le public qui a été au rendez-vous au début, ça s'est un peu écroulé d'un coup. Et puis on a, je trouve...
Oui, mais c'est pas parce que le cinéma américain s'écroule que le cinéma français marche. Hein. Et il faut espérer, en tout cas, pour le cinéma en général, et pour dépasser les 200 millions d'entrées, puisque depuis quelques années, on fait des beaux scores, et on rappelle à nos auditeurs, 200 millions d'entrées en un an, c'est un beau score, parce que il y a 20 ou 30 ans, on était descendu jusqu'à 120, 115 millions d'entrées en France. Donc, on va dire les salles, les multiplexes ramènent quand même ce qui fait plaisir le public dans les salles. Encore faut-il que le cinéma américain fonctionne et le cinéma français aussi. Et là, le cinéma français, à part la vraie question, c'est ce qu'on va faire mieux que les Tuches. Les Tuches qui avaient fait en début d'année 4 millions des poussières.
Ouais.
Et il nous faudrait encore
et
un
et
film comme ça.
L'année dernière, on avait un Kev Adams qui nous portait le cinéma français.
Absolument, je me souviens, avec
deux
films.
Profs, Aladdin.
Deux ou trois films.
C'est ça, donc du coup, il avait été exceptionnel.
Donc vous attendez l'Odyssée ?
Oui,
de Jérôme Salles,
effectivement,
qui peut faire plusieurs millions d'entrées.
Ah oui, pour moi, ça va être le gros carton français de cette fin d'année.
Vendez-le un peu alors.
Ah bah, au-dessus de 2,5 millions.
Ah, ben, au-dessus de 2,5 millions, on va voir. Hein. Vous irez voir l'Odyssée, Emilien?
Peut-être, ouais. Il y a pas mal de buzz déjà. Ça, on commence à parler du film. Il y a moyen que ça marche. Après, je veux pas prendre parti sur le.
Donc, côté français, on a Radin, on a Brice Denis III, on a l'Odyssée, et puis peut-être des films qui vont apporter quand même leur lot, comme moi j'attends beaucoup de Emmanuel Berco, la fille de Brest qui raconte l'affaire Mediator. J'attends beaucoup du film de Qu'a-t-il qui les verrait, Réparer les vivants, avec une belle distribution, dont Tahar Rahim, Emmanuel Seigné. Si ces deux films font chacun 1 million ou 1,5 million, ça apporte de l'eau à notre moulin.
Bah, après, faut pas oublier les États-Unis. Alors peut-être que
alors,
c'était
les Américains.
Oui, peut-être que les Américains.
Qu'est-ce qu'on attend côté américain?
Côté américain, bon bah il y a les gros films de Noël, Star Wars et compagnie, il y a les 7 mercenaires qui va arriver, il y a Doctor Strange, Marvel, voilà, beaucoup de gros calibres qui vont arriver. Là, jusque-là, c'est vrai que l'été, ils sont un peu plus calmes. Je pense qu'ils sortent maintenant leurs films plus en mai, juin, ils ont un autre emploi du temps, je trouve, maintenant. C'est pour ça qu'en l'été, on voit que, ouais, il y a une baisse peut-être de box-office américain, mais c'est parce que, voilà, ils vont tout balancer.
Mais vous, Emilien, vous ne pensez pas que le cinéma, on l'a souvent dit ici, que les recettes du cinéma américain avec ses franchises, ses... Ah, vous avez parlé du spin-off de Star Wars?
Oui, oui.
Ouais, il y en a un qui sort. Hein,
ouais, qui sort encore. Ouais.
Est-ce que vous ne pensez pas que ça s'épuise quand même un peu? Parce que cet été, c'était un signe quand même.
Bah, moi, je ne trouve pas, parce que cet été, c'est Suicide Squad qui s'est écroulé, mais ça, c'est DC Comics, ça n'a jamais vraiment marché. Alors que Marvel, eux, ça marche toujours très bien. Sauf qu'ils l'ont sorti avant l'été, mais ça marche très bien. Puis ils arrivent à trouver, justement, avec Doctor Strange qui arrive, et puis Thor 3. Enfin, ils ramènent des bons réalisateurs et des bons acteurs. Non, c'est assez enthousiasmant, je trouve.
Alors, ce que je voulais rappeler à ceux qui nous écoutent, c'est que, on le disait tout à l'heure hors micro, c'est que il faut que le cinéma français se réveille, parce que chaque année, le cinéma américain, bon an, mal an, blockbuster ou pas, fait le même score, un certain pourcentage, mais quand les années sont bonnes, c'est parce que le cinéma français a brillé. Et n'oubliez pas qu'on a eu ces dernières années, une année avec Intouchable, avant il y avait eu Les Ch'tis, ouais. On a une année avec Intouchable, on a une année avec Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, on a une année avec La Famille Bélier, qui avait aussi cartonné, et c'est vrai que cette année, il y a pas ces cartons-là, il y a eu la déception des visiteurs.
Oui, après La Famille Bélier, c'était aussi une surprise, parce que le buzz était monté petit à petit, et je suis sûr qu'à cette période de l'année, on n'aurait jamais pensé La Famille Bélier aussi haut.
Ouais.
Donc, du coup, il y a du potentiel au niveau français, je pense que...
Mais est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire, alors est-ce que c'est un vœu pieux, que les films français peuvent reprendre pied, peuvent prendre le pouvoir? Alors je vous laisse chacun dire le mot de la fin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut y avoir un très bon pourcentage. D'après vous, dans les 3 derniers mois qui nous restent, même plus, hein, octobre, novembre, décembre, le dernier trimestre, l'équilibre, parce qu'il y a toujours des parts de marché. Mm-hmm. Et il faut rappeler aussi que la part de marché en France, c'est toujours, en gros, 60% pour le cinéma américain et 40% pour le cinéma français. Il y a eu des années où c'était 65-35, des années où c'était presque 50-50. Là, je ne sais pas exactement, à l'heure où je vous parle, quel est le chiffre, mais ça doit être comme d'habitude à peu près 60-40. Est-ce qu'on peut dire qu'au dernier trimestre, ça peut un peu plus s'équilibrer?
Bah, pour moi, je dirais que non, parce que là, vraiment, les distributeurs américains, là, ils vont sortir leur gros couteau jusqu'à la fin de l'année. C'est vraiment leur période. Avec là-bas, ils ont Halloween, enfin, ils ont beaucoup de vacances, ils sortent les gros films.
Chez eux, et ça arrive chez nous.
Ouais, ça arrive en même temps chez nous, donc je pense que la période, ouais, novembre, décembre, pour nous,
va être forte.
Pour les États-Unis, ouais.
Et côté français, donc, sans
moi, je sais le contraire, effectivement. Je, pour en avoir un peu discuté, justement, avec des gens qui sont un peu des familles dans le milieu et tout, ils me disent, moi, j'attends beaucoup, beaucoup de films français pour cette fin d'année.
Ah, c'est super. Tant mieux.
Il y a Harry Potter aussi qui revient. Ça va faire mal aussi.
Harry Potter, avant la fin de l'année. Sous quelle forme?
Les Animaux Fantastiques.
C'est Les Animaux Fantastiques, qui sort aussi en décembre. Donc c'est encore un gros box-office.
Donc c'est comme un spin-off encore, un peu. Voilà. C'est-à-dire qu'on a droit à Star Wars, on a droit à Harry Potter. Voilà. Une petite reprise, hein, une petite continuation. Et ça marche quand même.
Ça marche,
Antoine.
Mais attention, l'effet de surprise n'est plus là. Et effectivement, peut-être qu'une famille Bélier va arriver avec créant un effet de surprise, j'en suis persuadé. L'Odyssée, j'y crois à fond.
C'est bien, très bien ça. Dans un instant, eh bien, on retrouve notre blind test et il va falloir être au taquet parce que je crois que cette fois, c'est toujours difficile, mais là, cette fois, je crois que c'est encore plus difficile.
Jouez avec la grande séance. Tout de suite, le blind test dans votre émission 100% cinéma.
Alors, c'est parti pour le numéro 1.
Vos toiles sont très belles. Vous en avez d'autres ?
Ah. Peinture. Séraphine.
Bravo. Super. Attention, le numéro 2.
On va déjeuner dehors. Ce sera prêt dans un quart d'heure.
Voilà, c'est toujours pareil. À Nenem, ma mère et ma sœur n'arrêtaient pas de m'emmerder, de m'interrompre pendant que je travaillais.
Bon, tout ça pour aller à Van Gogh. Bravo, vous avez reconnu la voix de Dutron.
Ouais.
Van Gogh de Piala. Bon, on reconnaît bien la voix de Dutron. Le 3.
C'est dur.
Oui, c'est très dur. Là, je peux vous dire que... de reconnaître, il n'y a que de la musique, hein. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui ont trouvé. C'est Pollock.
Pollock, ah oui.
Oui, il fallait le trouver. Attention, le 4.
And he said, I feel like you're spiting me. Do you think I took this job?
C'est Truman.
Bravo. C'est Philippe Seymour Hoffman. Philippe Seymour Hoffman, c'est ça. C'est Philippe Seymour Hoffman. Voilà. Parce qu'on avait eu deux Truman Capote. Attention, ça c'est un peu plus facile. C'est le 5.
Il cesse de s'en prendre au Parlement.
Non mais bah, homme libre.
Monsieur, je vous défends. Et moi, je vous attaque. Je dépose une plainte en information.
Moi, je dépose votre bilan.
Sa vie, la muse.
La voix de. Fabrice
Beaumarchini.
Beaumarchais.
Beaumarchais, l'insolence.
Bravo, bravo, très bien. Antoine Corté, très bien. Le 6. La musique est belle, hein.
Ouais. C'est quoi, c'est espagnol, c'est quoi?
Un petit peu. Dans le genre, en tout cas.
C'est... me dicen el negro llorona.
Frida.
Ah,
vous avez pensé, Emilien?
Ouais, Salma
Hayek.
Ouais.
Le 7, ça je connais pas ce film-là. On y va.
Ça sonne américain en tout cas.
Ouais, mais alors ça s'appelle, mais je sais pas si ça va vous dire quelque chose, l'agonie et l'extase.
Ah, pas du tout.
Bon, alors, très bien, on passe.
Dur.
Le 8, ça c'est plus connu.
Ah, c'est Mozart ça. Amadeus.
Évidemment, de Milos Forman. Amadeus, là bravo. Le 9. Ça vous dit quelque chose?
Neverland.
Bravo. Et le numéro 10, et le dernier.
Tu me le laisses celui-là.
Je te l'ai.
C'est donc
Richard Ray.
Voilà, bravo. Bah, c'est pas mal, hein. Vous en êtes bien sorti.
J'ai sauvé l'honneur, merci.
Dans un instant, bah, on va conclure cette émission. On va se quitter dans quelques minutes. Dans un instant.
La grande séance, l'émission 100% cinéma de Séance Radio.
Alors, il y a un film qu'on a oublié dans les sorties, parce qu'on a évoqué Brooklyn Village, qui a eu le Grand Prix à Deauville, puisque quand vous avez évoqué les films de Deauville, on a évoqué Ces années moi, mais il y a juste La fin du monde de Dolan. Et alors, j'ai vu que les critiques étaient partagées, moi j'ai été assez radical dans mes papiers, dans le bon sens, parce que on a l'habitude de brûler ce qu'on a adoré en France, et le Dolan pour moi est excellent. Alors après, on peut préférer Mommy, on peut préférer J'ai tué ma mère, son premier film, mais on rappelle le pitch, et moi je vais aller le revoir, c'est rarissime parce que j'ai pas beaucoup le temps. Le pitch, c'est Louis, joué par Gaspard Ulliel, qui revient après 12 ans d'absence dans sa famille. C'est une pièce adaptée de Jean-Luc Lagarce, et il a le sida, c'est un artiste, et il revient dans sa famille, la maman Nathalie Baye, son frère Vincent Cassel, la femme de son frère Marion Cotillard, donc il y a du beau monde, Léa Seydoux. Et en fait, son retour va provoquer une sorte de règlement de compte. Toutes les rancœurs, l'amertume va ressurgir et ça va être assez violent. C'est monté au cordeau, c'est hystérique, mais dans le meilleur sens du terme, parce qu'il contrôle l'hystérie, Dolan. Les acteurs sont magnifique. Vachement bien dirigé. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous, Antoine ?
Je l'ai trouvé sublime. Je trouve que, effectivement, on a du grand, grand Dolan qui se compare pas avec ses précédents.
Il faut pas.
Et il nous livre un film plein d'émotions. On est pris, on est même mal à l'aise. Et je trouve qu'il a réussi avec brio un très très grand film.
Alors, il faut dire qu'il a que 27 ans et que moi je cherche autour des gens de moins de 30 ans et je pense que c'est un des meilleurs cinéastes au monde aujourd'hui. On attend à chaque fois un film de Dolan comme un événement et c'est vrai, c'est un des meilleurs cinéastes au monde. On peut lui promettre une belle carrière comme les grands noms qu'on a eu dans l'histoire du cinéma, on peut lui promettre ça.
Oui, et puis en plus il a réussi à faire passer grand public un cinéma quand même assez... difficile et particulier.
Absolument. Et il est en train de faire La vie et la mort de c'est un bouquin de Jeff Donovan, je crois. Et il a Jessica Chastain, il a beaucoup d'acteurs américains, il n'arrête pas, il est parti encore pour son prochain film avec l'envie de plus trop retourner à Cannes, mais ça c'est une histoire. Je vous rappelle que vous étiez en train d'écouter La Grande Séance sur Séance Radio. On se retrouve évidemment mercredi 5 octobre avec des invités, des questions, des débats, des musiques de films et puis le support, comment intervenir, Nicolas ?
Sur Twitter, Séance Radio.
Voilà. À la prochaine fois.
C'était La Grande Séance, l'émission live 100% cinéma. Retrouvez Bruno Kras et toute son équipe sur Séance Radio par BNP Paribas.
Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.
This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to oseamalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide.